Le passage biblique de ce matin est tiré du livre de 1 Corinthiens au chapitre 2, édition Colombe. Donc 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 1. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et d'un grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ.
Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, moi aussi, je veux connaître personne d'autre au milieu de vous, sinon Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur, tu es la raison pour laquelle nous sommes tous assemblés ici ce matin. Tu es celui par qui tout ceci est rendu possible, Seigneur. Et tu es celui que nous voulons élever au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos vies en général, Seigneur, dans cette assemblée et au milieu de cette ville, Seigneur. Nous voulons élever le glorieux, majestueux nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous voulons te connaître comme nous ne t'avons jamais connu, Seigneur. Seigneur, nous voulons te ressembler comme nous ne te ressemblons pas encore, Seigneur. On veut être beau comme toi, aimant comme toi, sage, puissant en Dieu comme toi, Seigneur. Parce que tu nous as promis, Seigneur, que ton esprit viendrait réaliser ces choses en nous. Seigneur, nous voulons le faire pour notre bonheur, pour ta gloire et pour le bien, Seigneur, de cette nation, de ce peuple et de cette ville où tu nous as placés. Viens, Seigneur, et remplis-moi de ton esprit ce matin. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Viens, sois sur cette assemblée. Manifeste-toi dans nos cœurs, Seigneur, afin que nous soyons excités, remplis de foi, Seigneur, et de confiance en toi, pour que tu nous conduises de l'avant, pour ta gloire et par ta grâce. En Jésus-Christ, nous te prions, Père. Amen. Amen. Et ce matin, je suis vraiment content de commencer cette série sur la vision pour les 5 prochaines années. Comme vous le savez, je sais que c'était attendu. Comme vous le savez, j'ai eu quelques semaines de congé pour aller mettre des choses ensemble, travailler sur tout ça. Et je suis vraiment, vraiment content. D'autant plus que je ne sais pas combien d'entre vous en êtes conscients, mais Dieu accompagne tout cela, cette démarche-là. On le sent dans l'Église, plusieurs d'entre vous, vous le sentez dans vos cœurs, dans votre vie. D'autres, vous êtes là et vous commencez à être jaloux. Vous commencez à trépigner puis à dire, mais est-ce que je vais goûter moi aussi à cette bénédiction-là? Parce que vous voyez des gens autour de vous qui sont en train de se réveiller spirituellement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans les messages? Est-ce que c'est la prédication qui est différente? Est-ce que le gars qui est en avant est différent? Aucunement. Parce que lorsque le peuple de Dieu se lève, c'est parce que Dieu, c'est parce que l'Éternel s'est levé au milieu de son peuple, premièrement. C'est parce que le peuple de Dieu a crié à l'Éternel afin qu'il se lève au milieu de son peuple. Et c'est lui qui nous précède par son esprit. Alors, je suis vraiment content de commencer avec ça avec vous ce matin et voir ça avec vous. Avant de regarder la vision elle-même, avant de définir où est-ce qu'on veut aller dans les prochaines années, commençons par simplement dire qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut comme chrétien? Qu'est-ce qu'on veut comme église? Parce que voyez-vous, la vision, c'est juste un moyen d'arriver quelque part. Mais qu'est-ce qu'on veut, premièrement? Mais premièrement, comme chrétien, chacun d'entre nous voulons être remplis de paix et de joie. Est-ce que c'est pas vrai? Personnellement, dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos vies de couple, dans ce qu'on vit au quotidien, ce qu'on désire dans notre cœur, c'est être rempli de paix. Passer à travers cette vie, comme Charles disait, qui va de plus en plus vite, habité par cette paix que Dieu nous promet. Animé par cette joie profonde aussi, qui remplit nos cœurs, qui est là. Dans Romains 14, voici ce qu'on lit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Mais c'est ça que nous voulons. Nous voulons vivre cette justice, cette joie et cette paix dans nos cœurs. C'est ça que nous désirons premièrement comme assemblée. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on veut ensemble? On veut connaître Dieu comme on ne l'a jamais connu. J'espère que vous êtes convaincus comme moi que ce que nous avons besoin plus que n'importe quoi, c'est d'être encore plus émerveillés par la personne de Dieu. J'ai cette conviction profonde que si depuis une vingtaine d'années, plus de 20 ans maintenant, je marche avec Dieu et mon cœur est dévoué à vouloir marcher une vie différente de celle que j'aurais voulu autrefois, c'est parce que Dieu a fait le premier pas vers moi et il m'a révélé son amour, sa grâce, sa bonté. C'est une révélation de Dieu qui fait ce que je suis aujourd'hui. C'est pas moi qui premièrement a dit « Dieu, tu te caches, je vais te déterrer, je vais aller te chercher dans ton trou ». C'est Dieu qui est venu vers moi, qui s'est révélé à moi. Et frappé par cette révélation de la grâce et de l'amour de Dieu qu'on découvre en Jésus-Christ, j'ai été saisi dans mon cœur. Il m'a détourné de moi-même pour faire de moi quelqu'un de plus grand. Mais c'est ça qu'on veut. On veut une fraîche révélation de la personne de Dieu, connaître Dieu comme nous ne l'avons jamais connu auparavant. Amen! Parce que c'est ça qui nous transforme. C'est voir Dieu dans sa gloire, dans sa beauté. On ne quitte pas la présence de Dieu lorsqu'on saisit qui est Dieu sans être profondément bouleversé. Et c'est ça qu'on désire. Qu'est-ce qu'on désire aussi? On désire avoir un impact puissant par l'évangile de Jésus-Christ dans nos familles, auprès de nos enfants, auprès de nos parents, auprès des gens que nous aimons. On veut voir un impact puissant de l'Évangile, de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ dans les vies autour de nous, les gens que nous chérissons, que nous aimons, que nous côtoyons dans cette ville. On veut voir un impact puissant de l'Évangile. Pas simplement des petites percées tranquillement, puis on est là, puis on réussit, puis oups, on en arrache un autre Seigneur. Non, ce sont des milliers qu'on veut voir. Pas seulement par cette église-ci. Mais quand je pense à la ville de Longueuil, 380 000 personnes, il y a plusieurs assemblées évangéliques. Gloire à Dieu, plusieurs annoncent l'Évangile. Mais à travers tous ces ministères-là où l'Esprit-Saint est en train de travailler, ce que nous rêvons de voir, ce sont des milliers. Pas terminer dans quelques années puis dire, oh, il y a 200-300 personnes de plus qui ont connu personnellement Jésus-Christ, sont devenus des disciples de Jésus-Christ. Non, des milliers d'âmes venir à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Devenir des disciples de Christ. Amen. C'est ça qu'on veut. Et voyez-vous, tout ce qu'on va vous communiquer, tout ce qu'on va voir ensemble ce matin, dans les prochaines semaines, au cours des prochains mois, tout ce qu'on va mettre en place, tout ce qu'on va développer ensemble, toutes les actions que nous allons entreprendre ensemble visent à nous amener là. Lorsque je vais vous présenter ce matin une partie de la vision, ce qu'on vise à travers ça, c'est précisément cela. Grandir ensemble dans notre expérience de Dieu, dans notre paix, dans notre joie. On veut vivre quotidiennement le fruit de l'Esprit dans nos cœurs. On veut avoir cette fraîche révélation de la personne de Dieu, que nos cœurs soient illuminés à nouveau et découvrir, saisir Dieu comme on ne l'a jamais saisi auparavant. Parce que c'est ça qui va nous transformer. On veut voir l'Évangile avoir un impact puissant dans nos familles. Pas être en train de quémander constamment pour que les cœurs s'ouvrent un petit peu à l'Évangile. Non, mais que par la puissance de Dieu, les cœurs s'ouvrent grands. Que l'Évangile rentre, que les vies soient bouleversées, que les vies soient changées. Comme j'ai connu Jésus-Christ, c'est ce que je veux pour les gens autour de moi. Et je ne veux pas en arracher un, deux, trois au compte-gouttes et se réunir dans 5 ans puis dire, « OK, il y a peut-être 150 personnes de plus à Longueuil qui connaissent Jésus-Christ. Il nous en reste 379 000 à aller chercher. » Non, ce sont des milliers d'âmes que je veux voir venir à Jésus-Christ. Parce que je veux voir un impact puissant de l'Évangile. Et c'est ça, à cela que sert la vision. Maintenant, je prends quelques instants pour simplement vous expliquer comment fonctionne la vision, comment est-ce qu'on a structuré ça, d'accord, pour que vous puissiez suivre ce que je vais vous partager ce matin, mais au cours des prochaines semaines aussi, il y a une certaine structure à tout ça. Ce matin, on va regarder ensemble l'énoncé de vision. La semaine prochaine, il y a une pause, c'est le conférencier de la fin de semaine qui apporte le message sur un autre sujet encore. On est vraiment bénis, ça va être Ed Welch. Mais on se retrouve ensuite le 16 puis le 23. Alors ce matin, l'énoncé de vision. Le deuxième élément de cette vision-là, ce sont les valeurs. Alors l'énoncé, qu'est-ce que c'est? L'énoncé, c'est cette phrase que nous voulons garder devant nos yeux, qui résume. Deux courtes phrases qui résument ce qu'on veut voir s'accomplir. On veut garder ça devant nos yeux, sur notre cœur. C'est l'objectif, c'est là qu'on s'en va. L'énoncé de vision, c'est voici, Seigneur, ce qu'on veut voir se produire au cours des 5 prochaines années. Et par la grâce de Dieu, au fur et à mesure qu'on va avancer dans ces 5 années-là, à un certain moment donné, Et bien franchement, j'ai absolument aucun doute qu'on va vivre ça. Et c'est pas parce que je suis super quelque chose, simplement parce que c'est dans le cœur de Dieu ça. C'est ce que Dieu veut et je vois son esprit qui travaille au milieu de nous. J'ai aucun doute que ça va se produire. À un certain moment donné, au cours de ces 5 années-là, à un certain moment, dans nos cœurs, individuellement, et puis en assemblée, à un certain moment, je sais pas quand, il y a un constat qui va s'imposer à nous. Cette énoncé de vision, ce que je vais vous présenter ce matin, à un certain moment donné, on va commencer à se dire entre nous, « Sais-tu quoi, c'est fait? » C'est là. On est en train de vivre ça. On est rendu comme ça. C'est ce que nous sommes maintenant. Et au moment où ça va s'imposer dans l'Église, dans l'Assemblée, comme constat, c'est une profonde reconnaissance qui va venir descendre dans nos cœurs. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une fraîche révélation de la personne de Dieu qui produit ça. C'est pas nos stratégies, c'est pas nos processus, c'est pas nos objectifs, ce sont pas nos moyens, c'est pas un super preacher qu'on a découvert, puis on a trouvé un nouveau livre chrétien qui va révolutionner l'Église. C'est une fraîche révélation de la personne de Dieu qui produit cela. Et à ce moment-là, dans nos cœurs, ce qui va descendre, c'est une profonde louange à Dieu. Nos cœurs vont déborder de reconnaissance envers Dieu. Parce que lorsqu'on va se rencontrer, on va dire, Dieu l'a fait. Voilà ce que nous sommes maintenant. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Puis Dieu nous montrera à partir de ce moment-là, comment on fait encore pour avancer? Où est-ce qu'on s'en va? On veut pousser plus loin. Tant et aussi longtemps que Christ ne vient pas nous chercher. Ça, c'est l'énoncé de vision. C'est ce qu'on veut garder devant nos yeux. Alors, je vous le dis ce matin, certains d'entre vous, vous allez dire, OK, c'est beau la vision, un énoncé de vision, c'est comme, c'est théorique, c'est quoi cette affaire-là? Moi, je suis quelqu'un d'action, je veux que ça bouge. Je veux que tu nous dises, Yannick, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Je veux avancer. Dis-nous, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Maintenant, ça, c'est super important ce qu'on dépose ce matin. Parce qu'avant de commencer à courir dans toutes les directions, on va déterminer ensemble dans quelle direction on s'en va. Avant de commencer à passer à l'action, puis que tout le monde se lève, puis dit, « OK, oui, on veut voir ça s'accomplir. » Mais c'est quoi qu'on veut voir s'accomplir? Qu'est-ce qu'on veut devenir comme Église? Où est le cœur de Dieu? Où est-ce qu'on s'en va ensemble? Ce matin, c'est ça qu'on dépose. Le deuxième élément, comme je l'ai dit, ce sont les valeurs. Et on va commencer à les voir dans deux semaines. Les valeurs, bien, on a réfléchi ensemble, les anciens, puis on a déterminé, on a identifié des choses qui devraient grandir au milieu de notre assemblée, qui doivent nous caractériser de plus en plus. Ce sont les valeurs. Alors, plus concrètement, pour voir cette vision-là s'accomplir, qu'est-ce qu'on doit devenir? Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit grandir en nous? Qu'est-ce qui doit nous caractériser de plus en plus pour voir cette vision-là s'accomplir? Et le troisième élément de cette vision-là, bien, c'est l'action. Alors, voici comment ça va se passer dans le prochain mois. Cette semaine, on voit ensemble l'énoncé de vision. La semaine prochaine, Ed Welch va apporter le message. Dans deux semaines, on va voir une première partie des valeurs avec des actions qui sont reliées. Cette première partie-là, on l'a appelée comme ça. Les valeurs, c'est pas super chic, mais ça dit ce que ça veut dire. Racines, d'accord? Ce sont des valeurs qui déjà font partie de notre histoire. Cette église-là a été implantée par Élisée-Beau, des fondateurs, des hommes et des femmes qui ont travaillé fort. Et cette église-là a été construite sur un fondement biblique. Et donc, il y a des valeurs qui nous caractérisent, mais dans lesquelles on veut grandir encore. On veut plonger ces racines-là plus loin. Et vous en connaissez plusieurs, elles vous viennent déjà à l'esprit. Vous dites, on est comme ça, c'est notre histoire, et c'est merveilleux, et c'est glorieux, et on veut approfondir ces racines-là. On veut aller plus loin encore, et on va voir des actions qui sont reliées à ces valeurs-là. Et ensuite de ça, le 23 février, on va voir ensemble des valeurs qu'on a appelées des valeurs défis. Parce que celles-là vont nous appeler à sortir de notre zone de confort dans le but de ressembler davantage à Jésus-Christ. Parce qu'il y a des domaines où on doit continuer à grandir, on doit aller plus loin. Et celles-là vont nous brasser un peu plus comme Église parce qu'on veut ressembler davantage à Jésus-Christ. Et on va voir encore une fois des actions qui sont reliées à ça. Certaines de ces actions-là, lorsque je parle des actions, peuvent toucher toute l'Assemblée. Par exemple, ce soir, vous êtes invités à venir écouter le témoignage de Luigi et de Mireille. C'est un des éléments, une des actions qui concerne toute l'Église. C'est le leadership qui met ça en place. Alors, certaines de ces actions-là relèvent du travail des anciens, de la direction, d'éléments qui concernent toute l'Assemblée ensemble. D'autres sont beaucoup plus personnelles. Individuel, qu'est-ce qu'on doit faire pour grandir dans ces valeurs-là? On va commencer à vous présenter ça dans les prochaines semaines, afin qu'on ait des défis concrets, où on dit, OK, si on veut devenir comme ça, voici ce qu'on va faire. Voici comment on va travailler. Et par la grâce de Dieu, nous allons devenir cette Église-là. Le titre qu'on a donné à la série, c'est « Vision Ecclésia 2018. Ecclésia, Église en grec. Alors voici l'Église que nous voulons devenir d'ici à 2018. Et Dieu, dans sa grâce, va produire cela au milieu de nous parce que c'est selon son cœur. Ça vient directement de la parole de Dieu. Alors l'énoncé de vision ce matin. Voici ce que nous voulons devenir comme Église en deux phrases, d'accord? Très, très simple. On va les explorer ensemble un petit peu ce matin, puis vous allez voir, à la fin de la matinée, vous allez dire, par ta grâce, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, nous voulons devenir une Église centrée sur l'Évangile de Jésus-Christ. Une famille qui marche tout près de Dieu et qui déborde d'amour, de générosité pour son prochain. Je le répète, nous voulons devenir, par la grâce de Dieu, une Église centrée sur l'Évangile de Jésus-Christ, une famille qui marche tout près de Dieu et qui déborde d'amour et de générosité pour son prochain. Chacun des mots qu'il y a dans ces deux phrases-là ont été soigneusement choisis. Si comme Église, on ressemble à cela, D'ici 2018, il va y avoir un immense wow qui va s'installer dans nos cœurs, dans l'Église au milieu de nous et dans cette ville, parce que des gens vont commencer à découvrir l'Évangile de Jésus-Christ par le témoignage de cette assemblée. Une Église centrée sur l'Évangile. Et là, je vais prendre un petit peu de temps ce matin. Bear with me, si vous comprenez l'anglais, soyez patient avec moi, s'il vous plaît. Je veux explorer un petit peu cette déclaration-là, parce que vous nous entendez dire ça depuis plusieurs années. Être centré sur l'Évangile. Et il y en a déjà qui se disent, mais Yannick, voyons donc, on est à peu près déjà tout ça. OK, on déborde peut-être pas d'amour, là. Peut-être qu'on peut déborder, ça peut gicler un peu plus notre affaire, c'est correct. Mais centré sur l'Évangile, on l'est. Tu nous parles de l'Évangile dans tous tes messages. Yannick, tu es toujours en train de nous dire que l'Évangile doit venir éclairer ce texte-là. Constamment, tu es en train de faire ça. Quand Alexandre vient prêcher, constamment, il est en train de nous ramener. Il trouve l'Évangile toujours dans tous les passages. On l'est centré sur l'Évangile. Mais ça, c'est le message. Mais est-ce que vraiment, comme Église, on est centré sur l'Évangile? Est-ce que dans votre expérience quotidienne, vous marchez à la lumière de l'Évangile? Est-ce que la puissance, parce que Paul dit que c'est la puissance de Dieu, est-ce que cette puissance de Dieu vient dynamiser, éclairer, instruire chacune de vos journées en sorte à ce que quotidiennement vous ressemblez vraiment à Jésus-Christ? Je ne sais pas, hein? Lorsqu'on parle d'une Église centrée sur l'Évangile, on n'est pas en train de parler d'un message simple, 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 simple. Parce que l'Évangile, ça peut être très, 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 très simple. Ça pourrait se résumer à 4 lois spirituelles, 5 pas vers le ciel. L'Évangile, on peut résumer cela ainsi. Voici, l'homme est pécheur. L'homme est rebelle fondamentalement dans son cœur. Il a été créé à l'image de Dieu, mais il est rebelle. Puis Dieu a eu compassion de l'homme qui n'allait pas chercher Dieu par lui-même. Puis il a envoyé son fils qui est venu mourir sur une croix. Et lorsqu'il est mort sur cette croix, c'était un sacrifice. C'était pas simplement un acte symbolique. Il est venu verser son sang afin de payer le prix de toutes ces offenses faites envers Dieu. Et à tous ceux qui croient dans son sacrifice, le pardon de Dieu est accordé. Donc Dieu a pourvu au moyen de notre rachat, de notre pardon. Et à celui qui place sa foi, seulement sa foi, sans s'appuyer sur ses propres réalisations, le pardon est accordé. Et ensuite de cela, saisi par cette grâce, cet amour, il réalise qu'il est appelé à glorifier ce Dieu-là maintenant. Et voici maintenant dans son cœur, Christ est non seulement sauveur, mais Seigneur de sa vie. Et chaque jour de sa vie, il veut le glorifier. C'est l'Évangile. C'est simple. Mais ce n'est pas de ça seulement qu'on est en train de parler. On n'est pas non plus en train de dire qu'on va s'en tenir aux 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Dans les 2 prochaines années... Par la grâce de Dieu, on va aller dans 8 livres différents de la Bible. On va se promener d'un couvert à l'autre des Saintes Écritures. On va aller dans l'Ancien Testament, dans des livres historiques obscurs, souvent lourds à lire parce que leur contenu est troublant. On va aller dans des livres prophétiques. On va voir ensemble 10 de sujets bibliques importants. On va voir certaines doctrines super importantes. Et donc, on va se promener dans toutes les Écritures. Parce que voyez-vous, le message de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ est un message extrêmement riche, tellement riche qu'il supporte et est la clé même pour l'interprétation de toutes les Saintes Écritures. Et donc, j'aime bien résumer cela comme ça. L'Évangile, pour comprendre toute la Bible, et toute la Bible, pour saisir davantage l'Évangile. À celui qui ne connaît pas la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, lorsqu'il va lire le livre de la Genèse, il manque la lumière. Il manque la lumière. Ce qu'il voit, c'est une humanité qui est pratiquement abandonnée par Dieu. Mais déjà, le message de rédemption, l'histoire de la rédemption apparaît là. À celui qui va lire le livre de l'Apocalypse, mais là, c'est complètement capoté solide, là. Du bon stock. Mais lorsque tu as l'Évangile, puis tu commences à lire les Écritures et tu viens et tu saisis l'histoire de la rédemption, cette bonne nouvelle du salut, tu peux saisir enfin ces livres-là. Mais l'Évangile ne suffit pas. J'ai besoin de toutes les Écritures. J'ai besoin de toute la Bible parce que toutes les Écritures viennent, viennent éclairer l'Évangile, viennent m'aider à saisir la portée, la beauté, la grandeur de ce plan de Dieu qui était là avant même que l'humanité existe. L'Évangile était là dans son cœur comme cette lettre d'amour pour les hommes. Clairement, sans l'Évangile de Jésus-Christ, je ne peux pas connaître Dieu. Pas simplement je ne peux pas devenir un enfant de Dieu, mais je ne peux pas saisir qui est Dieu. Alors ce message-là n'est pas simple, les amis. C'est un message extrêmement grand, extrêmement riche. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important? Je m'excuse. De garder l'Évangile au centre de toute notre marche chrétienne aussi. C'est parce que par défaut, l'être humain, qu'il connaisse Dieu ou non, bascule entre l'irreligion et la religion. J'aime bien cette citation de Tim Keller. L'Évangile n'est ni religion, ni irreligion, mais quelque chose d'entièrement différent, une troisième voie pour entrer en relation avec Dieu par la grâce. L'Évangile, ce n'est pas religion, ce n'est pas non plus rejeter toute l'idée de Dieu, mais c'est cette troisième voie qui nous permet de connaître Dieu véritablement. Un des premiers pères de l'Église, c'est comme ça qu'on les appelle dans l'histoire de l'Église, ce sont ses premiers enseignants dans les premiers siècles d'histoire de l'Église. Un de ceux-là, c'est pas de sa faute, s'appelait Tertullien. Sa mère filait pas ce matin-là lorsqu'elle l'a nommé. Tertullien a vécu de 160 à 220, d'accord? Et voici comment Tertullien illustre cette idée-là, voici comment il le résume. Il dit « Tout comme Jésus a été crucifié entre deux brigands, entre deux voleurs, de même, l'Évangile est à jamais crucifié entre ces deux erreurs, que sont la religion et l'irreligion. » On va le mettre comme ça. Imaginez la croix qui est au centre et on a une illustration pour vous. Et d'un côté, on les décline de différentes manières, mais c'est toute la même chose. Alors, d'un côté, on a cette idée de la religion pour aller vers Dieu. Certains vont l'appeler le légalisme, c'est la loi. Qu'est-ce qu'il dit, le légalisme? Eh bien, tu as des lois à observer, et lorsque tu les observes, tu vas éventuellement pouvoir accéder à Dieu. Suivant ces règles, tu vas te qualifier pour te rendre à Dieu. On va l'appeler aussi le moralisme, qui cherche constamment dans notre quotidien à dire, il faut que tu sois comme ça. Autrement, tu ne plairas jamais à Dieu. Et de l'autre côté, on a l'irreligion, qui dit non, ça n'a aucune importance, ça. Gros terme théologique ce matin, antinominianisme, excusez-moi, il y a une faute là, antinominianisme, anti-loi, d'accord? Et donc, il y a cette idée, l'antinominianisme, c'est simplement cette idée qui dit, puisqu'on est sauvé, il n'y a plus aucune loi qui tient. Je suis entièrement libre, je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour plaire à Dieu, j'ai juste à me laisser aller à tout ce que je suis, la grâce suffit. Dans des termes plus contemporains, on va parler de relativisme. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de moralité, il n'y a pas de bien et de mal. Une autre forme du relativisme, c'est le pragmatisme. La fin justifie les moyens. Et donc, on a vu des gens qui voulaient voir tellement de personnes venir à s'identifier à Jésus-Christ qu'ils ont épuré le message de l'Évangile de tout ce qui pourrait offenser. À partir du moment où la personne a se fait tatouer Jésus ici, ou apporte une croix lorsqu'elle s'en va faire un concert, c'est correct, Jesus, yeah! L'enfer n'est plus là, le péché n'est plus là, le bien, le mal, ça n'existe plus. La fin justifie les moyens, le pragmatisme, d'accord? Et voyez-vous, ces deux erreurs-là de chaque côté s'expriment dans nos vies quotidiennement. Dans vos vies, ça s'exprime. Et on n'est jamais toutes d'un côté ou de l'autre, d'accord? Il y en a, si on avait à choisir notre camp, on mettait une ligne ici, il y aurait la gang des légalistes un peu coincés, tu sais. Puis il y a les autres qui sont super free de l'autre bord. Mais c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a des domaines dans votre vie où vous êtes là, puis vous êtes en train de dire, ouais, mais ça, là, par exemple, là, t'es pas assez sérieux. Ça, moi, je suis bien mal à l'aise avec ça, tu sais. Puis dans l'autre domaine, il dit, ben voyons donc, pourquoi t'es coincé avec ça? Il n'y a rien là. Notre mode de défaut, par défaut, notre cœur se balance entre les deux constamment. Et l'Évangile est là pour nous conduire dans cette voie de la grâce. Notre mode, par défaut, c'est de tomber d'un côté ou de l'autre dans toutes sortes de domaines dans nos vies. Et ces deux erreurs-là veulent constamment venir détruire ce message-là et enlever, retirer de nos vies la puissance de l'Évangile. Alors l'Évangile doit être là, doit être au centre de notre expérience avec Dieu, de notre marche avec Dieu, et c'est ainsi qu'on va grandir dans la connaissance de Dieu, sans tomber d'un côté ou de l'autre, parce que l'Évangile nous conduit là. Une belle manière de l'illustrer, c'est avec cette balance, simplement de dire, lorsqu'une église vit ça, lorsqu'un croyant a l'Évangile au centre de sa vie, si l'Église de l'espoir est en train de grandir dans ça, les gens qui vont nous côtoyer, en nous rencontrant, vont découvrir cette espèce de balance que produit l'Évangile entre des convictions morales très claires, un jugement moral très clair de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui plaît à Dieu, de ce qui déplaît à Dieu. Et d'un autre côté, énormément de compassion. Quand l'Évangile est là au centre, c'est ça qui se produit. L'Évangile au centre d'une église va faire que des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui commencent à chercher Dieu vont entrer en contact avec cette église-là et ils vont découvrir une église qui est ni dans le relativisme ni dans le légalisme, qui a des convictions morales extrêmement claires, comprend ce que la parole de Dieu détermine comme étant bien et mal. C'est quoi la sainteté? C'est quoi qui plaît à Dieu? Qu'est-ce qui déplaît à Dieu? Mais en même temps, une profondeur de compassion. Parce que l'Évangile produit ça dans nos cœurs. L'Évangile produit cela dans nos cœurs. En grandissant comme Église, en étant centré sur l'Évangile, nous allons apprendre à suivre ce que Jonathan Edwards a appelé la règle de l'Évangile. Jonathan Edwards, un des plus grands théologiens de l'histoire de l'Église, Augustin, Saint Augustin, Calvin, Jonathan Edwards, OK, Paul, c'est vrai, avant. Bon, puis Jésus, tant qu'à y être. Jonathan Edwards, c'est un des derniers des grands prédicateurs protestants, des puritains. Et lorsque je dis le mot puritain, certains d'entre vous, vous avez toutes sortes de connotations péjoratives qui vous viennent à l'esprit. Mais les puritains, ce qu'il y avait d'extraordinaire dans leur message, dans leur ministère, c'est qu'ils avaient compris que la théologie, la doctrine, c'est quelque chose qui doit venir s'appliquer au cœur pour venir transformer nos vies. Et ce qui nous protège de devenir des gens religieux lorsqu'on décide d'étudier la parole de Dieu, c'est l'Évangile. Parce que l'Évangile vient nous transformer et progressivement, la parole de Dieu devient vie en nous, concrètement. Mais Jonathan Edwards, en étudiant l'Évangile, en étudiant les Saintes Écritures, en est venu à utiliser ce langage-là. Il a dit, il y a les règles de l'Évangile. L'Évangile vient nous apprendre à vivre autrement. Et je vais simplement l'illustrer comme ça ici ce matin, d'accord? Parce que c'est pas tout le sujet du message de ce matin. Dans Romains 12, 1, voici ce qu'on lit. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce que Paul est en train de faire ici dans ce passage-là, il est en train de sortir une règle de l'Évangile. Il dit, « Voici, je vous exhorte en raison des compassions de Dieu. » Paul vient d'exposer l'Évangile en profondeur, avec richesse. C'est un des livres les plus complexes de la Bible, l'Épître aux Romains, parce que Paul avait cette connaissance de l'Évangile extraordinaire et il plonge dedans et c'est glorieux, c'est majestueux. Mais à la fin de tout ça, il dit, « Voici, qu'est-ce que ça fait dans nos vies? » Ce message-là, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, produit un style de vie, nous instruit au quotidien. Alors Paul dit, « Je vous exhorte donc, conséquemment à tout ce que j'ai dit avant, tout ce que j'ai exposé, toute cette connaissance de l'Évangile de Jésus-Christ, je vous exhorte donc maintenant à adopter un style de vie conséquent, instruit par l'Évangile de Jésus-Christ, à offrir vos vies en sacrifice. » Et le lien est immédiat avec le sacrifice de Jésus-Christ. Paul dit, « Voici une règle qu'on tire de l'Évangile. Si notre Sauveur, notre Seigneur s'est sacrifié, s'est dépouillé lui-même, a quitté sa gloire pour venir marcher parmi les hommes. Mais voici, on est instruit, on est enseigné nous-mêmes à nous dépouiller, à nous sacrifier, pas en versant notre sang. Ça ne donnerait rien, il a tout accompli. Mais en offrant nos mains, en offrant nos corps, en offrant notre temps, en offrant notre énergie, on est appelé à s'offrir en sacrifice. Voyez-vous, c'est une règle de l'Évangile. qui doit venir nous instruire dans nos relations de couple, à la maison, qui doit venir nous instruire dans nos rapports avec nos enfants, dans notre service ici, dans notre relation avec nos voisins, dans notre relation avec n'importe qui. Comme Église, lorsqu'on va faire des choix ensemble sur le genre d'Église qu'on veut être, on doit être instruit par cette règle de l'Évangile. Parce que cela va venir influencer le style d'Église qu'on veut devenir, le genre de musique qui va se produire ici, le genre de ministère qu'on va développer. Instruit par cette règle de l'Évangile, mais concrètement, je ne suis pas ici pour chercher ce qui me plaît. Je suis ici pour m'offrir en sacrifice. Hey, il y a des implications extrêmement concrètes à ça. Je suis ici pour servir, parce que je suis instruit par la règle de l'Évangile. Lorsque l'Évangile est vécu quotidiennement, et lorsqu'un croyant, lorsqu'un chrétien, lorsqu'une église, lorsqu'une famille apprend à vivre quotidiennement, en marchant suivant la règle de l'Évangile, les théologiens comme Tim Keller nous disent, bien souvent c'est là qu'on observe la plénitude de l'Esprit se vivre quotidiennement. Parce que c'est là qu'on est à l'abri, d'une part de la religion, d'autre part de l'irreligion, du légalisme, du relativisme. Et cette ville où Dieu nous a placés a besoin de voir ça. Tes enfants que tu voudrais voir marcher avec Jésus-Christ ont besoin de voir ça dans ta vie. Ton épouse, ton époux ont besoin de voir ça. Tes voisins, tes collègues de travail ont besoin de voir ça. Ils ont besoin de voir quelqu'un qui, généralement, dans sa vie, est rempli du Saint-Esprit. Pas un chrétien moribond qui est toujours en train de pleurer en disant, « Je lis les pages de la Bible puis je me dis, il fut un temps. » C'est pas ça que Jésus a promis. Tes enfants ont besoin de voir en toi Jésus-Christ, rien de moins. Tes voisins ont besoin de voir en toi Jésus-Christ, rien de moins. Et c'est ce qu'il a promis de faire. Alors nous voulons apprendre à rester collés à lui, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais si nous grandissons dans cette règle de l'Évangile, en explorant ensemble, en apprenant ensemble, à être instruits quotidiennement comme Église par l'Évangile de Jésus-Christ, cette plénitude de l'Esprit que nous désirons, cette puissance glorieuse qui fait de nous des gens hors du commun parce que nous ressemblons à Jésus-Christ simplement, c'est ça qui va être en train de se produire. C'est ça qui va être en train de se réaliser. En voyez-vous, dans cet énoncé de vision, on commence par ça. Parce que c'est par la puissance de l'Évangile de Jésus-Christ que nous allons devenir tout le reste. Regardons ça ensemble quelques instants. Nous voulons devenir une famille. Une famille. Ah, on est la famille de Dieu. Mais il y a famille et famille, hein? Vous avez des familles autour de vous, puis vous dites, c'est une famille sur les papiers, c'est sûr. Je sais à quelle adresse il habite. En fait, je ne sais même plus s'il habite avec sa famille. Mais il y a famille et famille. Nous voulons devenir une famille. On l'est, en théorie, si on allait chercher ensemble dans les archives célestes, on verrait chacune des personnes ici qui a placé sa foi en Jésus-Christ est devenue un enfant de Dieu, fait partie de la famille de Dieu. Mais ça veut dire des valeurs. Lorsqu'on parle de famille, on parle d'accueil. Et vous savez, peut-être que vous vous dites, oui, mais l'Église grandit. Quand dans une Église qui grandit, tu ne peux pas vivre ça, cet esprit de famille-là. C'est n'importe quoi. Si vous dites ça, c'est un mensonge. C'est absurde comme pensée. Pensez aux actes. Acte 2, acte 4, acte 6, 3000, 5000, 6000 personnes, une famille. C'est visible. Dans mes voyages, j'ai visité des assemblées de 14 000 personnes. Et lorsque tu es entré en contact avec cette Église, c'était une famille. Et certaines de ces qualités-là, nous les possédons. Mais d'autres, on doit y grandir, instruits par l'Évangile. Parce que lorsqu'on parle de famille, on parle d'accueil. Certains d'entre vous, vous avez des plus grandes familles que la mienne. Nous, on a 2 enfants. Certains d'entre vous, vous avez 4, 5, 6, 7, 8 enfants. Est-ce qu'il y a un de vos enfants que vous n'aimez pas? Est-ce qu'il y a un de vos enfants que vous aimez moins que les autres? Est-ce qu'un de vos enfants que vous voudriez juste voir disparaître, on les aime tous. Ils sont différents. On reconnaît en eux des traits qui nous ressemblent, puis d'autres qui malheureusement nous ressemblent aussi. Puis là, ça nous brasse dans nos cœurs parce qu'on dit, oh, t'aurais pas pu être comme ta mère. Ou comme moi. Mais on les aime, chacun d'entre eux. C'est ça une famille. Parce que chacun sont accueillis. Il n'y a personne qui est un numéro dans une famille. Chacun a sa place dans la famille. Dans une famille qui est en santé, on est fiers de notre appartenance. On est fiers de cette famille-là. Et on doit grandir dans cela, en sorte à ce que vous disiez lorsque vous êtes au travail, si seulement je pouvais te présenter ma famille spirituelle. Il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes les rencontrer. Écoute, ils sont tellement charmants. Tu vas tomber en amour avec eux. Je sais que tu as des préjugés sur Dieu, mais attends de voir ma famille. Tu vas voir, ça va tout tomber, ça. On veut devenir une famille. On veut devenir une famille qui marche tout près de Dieu. Qui marche tout près de Dieu. Ça a l'air simple, hein, ça? Mais si je vous demandais, quotidiennement, généralement, dans vos cœurs, est-ce que vous estimez que vous êtes tout près de Dieu? Ce qu'on entend par là, on veut dire à l'écoute de Dieu, disponible devant Dieu. Lorsque je me lève le matin, ce que je veux, c'est glorifier Dieu. Quand dans ma journée, je me rends compte que j'ai attristé l'esprit parce que j'ai péché, mon cœur est malheureux. Je ne suis pas froid à ça, je suis bouleversé par ça parce que ce que je désire quotidiennement, c'est cette plénitude du Saint-Esprit. Et c'est ça, être tout près de Dieu. C'est, je connais la parole de Dieu, je prends plaisir dans la loi, dans les préceptes de Dieu, parce qu'ils instruisent mon cœur et je veux marcher dans ses voies. Alors, si je vous demandais, est-ce que c'est votre expérience régulière d'être tout près de Dieu? Quand tu es tout près de Dieu, puis tu pêches, tu vis de la tristesse dans ton cœur. Ton cœur est troublé par ça. Cette semaine, il m'est arrivé quelque chose à un certain moment donné. Et puis honnêtement, j'ai péché. Vraiment, j'ai péché. Lorsque je l'ai réalisé, mon cœur a été triste, c'est lourd. Tellement déçu d'avoir attristé Dieu comme ça. Puis je ne vous dis pas que j'ai péché juste une fois cette semaine. C'est pas ça que je suis en train de dire. À un certain moment donné, c'était comme, non, c'est trop, ça ne se peut pas, Seigneur. Mon cœur était lourd et il a fallu que je transige avec Dieu dans la prière pour dire, mais Seigneur, pourquoi je veux tellement marcher toujours rempli de ton esprit? Mais voyez-vous, lorsqu'on marche près de Dieu, mon cœur n'était pas en paix tant que je n'ai pas retrouvé le chemin vers la maison. Jusqu'à cet endroit où j'ai dit, Seigneur, je sais que tu m'as pardonné, je me relève et je marche avec toi. Remplis-moi de ton esprit maintenant, Seigneur. Est-ce que c'est votre expérience régulière? Est-ce que c'est votre expérience quotidienne? Si je vous demandais, est-ce que vous êtes à l'écoute de Dieu? Est-ce que votre cœur est reposé en Dieu? Ou si votre cœur est constamment troublé, vous êtes des gens inquiets, des gens troublés, des gens frustrés, des gens qui vivent quotidiennement, régulièrement, de la colère, de l'irritation, de la peur. On va s'approcher de Dieu, les amis, c'est ça qu'on va faire. Parce que lorsqu'on est tout près de Dieu, voici ce qu'on vit. On vit la plénitude de l'Esprit. Galates 5, 22 à 25. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Celui qui marche près de Dieu est mort à lui-même, et comme ce n'est pas un être religieux, ce n'est pas quelqu'un qui a de l'air triste, éterne, écrasé par ses préceptes, ses principes religieux. C'est quelqu'un qui vit rempli du Saint-Esprit. Cette paix, cette joie, cette bonté, cette douceur, c'est ce que nous voulons devenir, les amis. Et c'est ce que Dieu veut produire en nous. Et enfin, nous voulons devenir une famille qui marche tout près de Dieu et qui déborde d'amour et de générosité pour son prochain. Chacun des mots dans ce petit bout de phrase-là ont été choisis avec soin. Nous voulons devenir une famille qui déborde d'amour et de générosité pour son prochain. On veut devenir comme Jésus. On veut devenir comme Jésus les uns envers les autres. Quand vous côtoyez Jésus dans les Écritures, dans les Évangiles, vous ne voyez pas quelqu'un qui est en train de calculer son amour. Vous ne voyez pas quelqu'un qui est en train de calculer ses biens et voir ce qu'il va en faire ensemble. On veut que cet amour-là déborde, que ce soit spontané. Je ne vous dis pas qu'on va être parfait, là. Je vous dis que quotidiennement, puisqu'on va être près de Dieu, puisqu'on va avoir appris à marcher en suivant cette règle de l'Évangile, régulièrement, généralement, c'est ça qu'on va être comme personne. Des gens qui débordent d'amour. Et cet amour-là, ce ne sera pas simplement de la théorie « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Ça va être de la générosité. Parce que c'est là que tu vois l'amour. Quand le cœur est généreux pour écouter. Quand le cœur est généreux pour servir, quand le cœur est généreux pour accueillir, quand le cœur est généreux pour partager, quand le cœur est généreux pour donner, pour son prochain, pour la famille de Dieu et pour chaque personne que Dieu va placer sur notre chemin. Parce que cette ville a besoin, lorsqu'elle passe les pas de cette porte, lorsqu'elle est invitée dans votre petit groupe, lorsqu'elle entre en contact avec vous au travail, vos voisins, lorsqu'ils apprennent à vous connaître et qu'ils découvrent la famille de Dieu, cette ville a besoin de rencontrer des gens qui ont ces principes moraux très fermes, très clairs, qui les distinguent du monde environnant parce qu'ils ont compris la loi de Dieu, mais qui sont profondément animés de compassion, de cet amour qui déborde de leur cœur, de cette générosité envers quiconque qui va les accueillir. Voilà ce que Dieu veut faire au milieu de nous. On n'est pas encore dans l'action, mais j'espère que vous mesurez ce qui est devant nous. Et je vais terminer avec un dernier passage des Écritures. Tournez avec moi dans Matthieu 5, s'il vous plaît. Un passage que j'ai prêché dans l'église ici. Et je sais encore aujourd'hui, plusieurs d'entre vous, lorsqu'on lit ce passage-là, vous dites « Come on, Yannick! » Jésus veut juste mettre la barre tellement haute qu'il veut être certain qu'on bouge un peu, c'est tout. Mais non, si c'est ça que vous croyez, vous n'avez pas compris l'inhérence des Écritures, vous n'avez pas compris l'autorité de Jésus-Christ, vous ne comprenez pas l'inspiration de la parole de Dieu, tout simplement. Parce que ce n'est pas ça du tout que Jésus veut faire ici. Dans Matthieu 5, verset 38, Jésus est en train de nous dire qui il veut que nous devenions. Jésus, c'est Dieu, c'est le boss, c'est là qu'on s'en va par la puissance de son esprit, par la grâce de l'Évangile. Matthieu 5, 38, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent, mais moi, le Fils de Dieu, celui qui est mort sur la croix, ça s'en vient là, on n'est pas rendu là dans Matthieu 5, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Les amis, c'est là que Dieu veut nous amener. Parce que c'est sa parole. C'est ce qu'il veut produire en nous. Il veut faire de nous une église qui est centrée sur l'Évangile de Jésus-Christ, qui a appris de l'Évangile à ne pas être des gens religieux et à ne pas être des relativistes, mais à être des gens qui sont nourris de la parole de Dieu pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal, mais animés d'une compassion profonde. Il veut nous apprendre à marcher suivant les règles de l'Évangile et que tout cela devienne très concret dans nos vies quotidiennement. Il veut faire de nous une famille et qu'on continue à grandir numériquement, cette famille-là, elle est là, elle accueille, elle est fière, elle prend soin les uns des autres. Il veut faire de nous une famille qui marche tout près de Dieu, qui vit quotidiennement, régulièrement, généralement, remplie du Saint-Esprit, portant le fruit de l'Esprit dans sa vie. Une famille qui déborde d'amour et de générosité pour son prochain. Ce matin, on va prendre ensemble le repas du Seigneur. Dans quelques instants, j'aimerais inviter les musiciens à venir prendre place à l'avant. On va prendre le repas du Seigneur ce matin. Et si vous êtes en visite, peut-être que vous n'êtes pas familier, toutes sortes de noms pour cette tradition super importante pour les chrétiens. La Sainte-Cène, le repas du Seigneur, c'est Jésus qui l'a introduit auprès de ses disciples. Alors qu'il prenait la Pâque, qu'il prenait le repas de la Pâque pour une dernière fois avec ses disciples et qu'il savait que dans quelques heures, il allait être arrêté, livré aux Romains, puis crucifié, offert en sacrifice. À ce moment-là, Jésus a pris le temps de dire à ses disciples, « Ça s'en vient, les amis. » Et il a instauré cette tradition pour les chrétiens qui est super importante parce qu'elle est riche de symboles. Brisant du pain, il a pris un premier morceau de pain, il l'a passé aux disciples et il a dit, « Ceci est mon corps. Ceci représente mon corps qui va être brisé sur la croix. » Les disciples ne comprenaient rien de ce qui s'en venait. Puis après ça, il a pris la coupe de vin. Puis il a donné aux disciples, il a dit, « Ceci est mon sang qui est versé. Chaque fois que vous allez vous réunir, faites ceci en mémoire de moi. Prenez le pain, prenez la coupe, afin de vous rappeler de mon sacrifice. » Les musiciens vont nous conduire dans un chant. Ce matin, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Je vais vous inviter tout à l'heure à prier. Les placeurs vont distribuer le pain, la coupe, tout ça. Mais on va aller dans la prière en assemblée et on veut prendre ce moment-là où on se rappelle le sacrifice de Jésus-Christ et on veut prendre le temps de lui dire, « Seigneur, par la foi, avec crainte et tremblement, on veut devenir cette église-là. Centré sur toi, Jésus, à ta ressemblance. On veut que nos familles et nos couples ressemblent à cela. » On va chanter ensemble.